Je voulais d'abord remercier Agnès et Hélène principalement de m'avoir associée à cette réflexion sur le bonheur. Ça m'a donné l'occasion de, ben oui, de m'interroger moi aussi sur cette question-là. Par rapport évidemment aussi à mon activité, je vais y venir tout de suite, mais donc merci beaucoup de m'avoir invitée à cette réflexion et à ce travail d'élaboration que j'ai complètement changé cette nuit. Donc c'est pour ça que. On a dû refaire le PowerPoint. Voilà. Et le titre a effectivement un peu changé, mais le bonheur est dans le pré, on y arrivera à la fin de cette présentation et de mon propos. Alors donc, moi, je suis de profession psychologue clinicienne et je travaille depuis 20 ans auprès de personnes qui sont aux prises avec une addiction, c'est-à-dire de personnes qui consomment de manière pathologique, des substances psychotropes, essentiellement alcool, drogue, mais aussi de comportements dits addictifs, puisque je suis spécialisée dans la question des jeux, donc jeux de hasard et d'argent, et jeux vidéo, qui sont des problématiques. Alors, pour l'une d'entre elles, vieille comme le monde, hein, puisque les jeux de hasard et d'argent, posent problème et on joue depuis la nuit des temps. Jeux vidéo, c'est vraiment propre à notre époque et au développement technologique. Donc mon propos de cet après-midi va essentiellement reposer sur ce travail clinique auprès de ces personnes et des échanges avec eux et puis aussi avec mes collègues, puisque j'ai eu la chance de travailler pendant 18 ans. Je suis nouvellement arrivée sur le territoire, hein. J'ai eu la chance de travailler pendant 18 ans à l'hôpital Marmottan, qui est un hôpital qui a été fondé par l'un des pionniers de la prise en charge des personnes toxicomanes en France et qui est le professeur Claude Olivenstein. Et puis, donc moi, j'ai pas travaillé directement avec le professeur Claude Olivenstein, parce que quand je suis arrivée au début des années 2000, ben lui, il s'en allait en retraite. Et j'ai travaillé avec le docteur Marc Valeur, qui, lui, a été un pionnier sur la question des prises en charge des personnes qui souffrent d'addiction sans produit. Et c'est un peu comme ça que j'ai été formée à ces questions. Alors, c'est principalement dans cette institution que j'ai forgé mon savoir-être, on va dire, de professionnel, parce que dans ce domaine, c'est surtout un savoir-être, plus que même un savoir-faire. Et puis actuellement, donc je suis psychologue clinicienne au XAPA. Alors XAPA, ça veut dire Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions de l'association régionale Clément Cisor, qui est située à Toulouse, mais on accueille des personnes qui viennent, je dirais, un peu de partout. Et moi, j'ai deux missions. Qui m'ont aussi inspiré mon propos, c'est pour ça que je précise aussi les choses. Et c'est un peu nouveau pour moi comme genre de travail, parce qu'à Paris, je faisais ce qu'on appelle du curatif. Je recevais semaine après semaine des personnes qui venaient me faire part de ce qui se passait pour eux, de leurs avancées, de leur rechute aussi, hein. Et là, ici, au centre Clément Cisor, je travaille sur un réseau tout à fait original qui est l'accueil familial, alors qui propose à des personnes qui sont un peu éloignées des consommations, donc consommation de substances ou de comportements, de pouvoir être accueillies dans des familles pendant des durées assez importantes, du travail sur moyen-long terme, puisque c'est 6 mois, les contrats sont de 6 mois. Donc ça, c'est une partie de mon travail et ça alimente un peu différemment aujourd'hui ma réflexion. Et c'est passionnant, c'est vraiment, je trouve, très original. Et je remercie beaucoup les familles qui effectuent cette mission parce que ce n'est pas simple. Et d'autre part, je travaille sur un projet de prévention dans le quartier du Grand Mirail, qui, vous le savez, est un quartier dit QPV, quartier politique de la ville. C'est-à-dire que c'est un quartier plutôt défavorisé dans lequel on essaye de favoriser l'accès aux soins pour une population un peu en marge, surtout en marge, précaire, exclue. Et donc, mon propos de ce jour par rapport à votre sujet, qui est le bonheur, va s'articuler donc autour de cette notion de paradoxe addictif et donc va reposer essentiellement sur ces différentes expériences. Je vais essayer d'illustrer au fur et à mesure, mais j'ai quand même préparé un texte, donc je vais m'y m'y tenir pendant cette présentation. Alors, le premier point, ah ben voilà. Le premier point, c'est la notion d'addiction comme limite à la loi du désir. Et je vais commencer par emprunter une réflexion qui m'a été soufflée par mon collègue médecin, Jacques Barsoni, qui travaille avec moi au centre de soins et qui a une fort longue expérience, puisqu'il bon, il a 75 ans et il bosse encore avec nous, dans l'accompagnement de ces publics désignés autrefois donc par le terme toxicomane, alcoolique, et aujourd'hui on dit addict, même si cette expression ne soit pas encore officiellement reconnue, c'est un gros mot, c'est pas dans le dictionnaire. Et donc, il m'a confié donc cette réflexion qu'il a lui-même écrit, hein, puisqu'il écrit des petits paragraphes comme ça, thématiques, et il a eu la gentillesse de le partager avec moi en apprenant ma participation à cette semaine d'échange. Alors, c'est de lui. Pour soigner ses patients, le médecin doit savoir ce qu'ils veulent. Il ne peut pas toujours leur demander. C'est une question difficile. J'ai tout pour être heureux, docteur. Tout, c'est insuffisant. Je vous explique, le bonheur n'est pas un objectif, c'est prouvé, scientifiquement. La seule fois où l'être humain a été parfaitement heureux, ça ne lui a pas plu, il s'est enfui. Au paradis, comblé, il s'ennuyait, le manque lui manquait. Il a choisi le saut dans l'inconnu, la liberté. Adam et Ève, Bible, page 1, vous connaissez ? Mais vous avez dit que c'était scientifique, docteur. Ça l'est, une légende qui a tellement résonné dans l'esprit des hommes qu'ils se la racontent encore au bout de 4000 ans. C'est forcément que ça dit quelque chose de vrai. Il est même rare qu'en science, on atteigne un niveau de preuve aussi élevé. Et mon collègue médecin, d'ailleurs, me dit « ça, c'est la désillusion ». Alors, dans cette question du bonheur, celle du désir est centrale. Et dans cette histoire d'Adam et Ève, ça illustre tout à fait cette idée. Je reprends cette phrase. Au paradis comblé, il s'ennuyait, le manque lui manquait. Cette expression du manque de manque, qui prend forme dans les parcours des personnes que nous recevons de rechutes douloureuses, introduit la dialectique du désir. Très souvent, en fait, les rechutes qui, on dit très souvent dans mon milieu, les rechutes font partie de la trajectoire, les rechutes font partie du parcours. C'est-à-dire que nos patients, qu'on dit des patients difficiles, toujours ils rechutent. C'est-à-dire qu'au prix de grands efforts, ils vont s'éloigner d'une consommation, ils vont tout organiser pour ne pas, et puis un jour, on ne sait pas trop pourquoi, ils vont rechuter. Et donc cette phrase typique dans nos lieux de soins, ces rechutes, elles sont la preuve que la personne est aux prises avec un processus addictif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'addiction s'il n'y a pas de rechute. D'accord ? On ne peut pas être addict au chocolat. Ah non, on ne peut pas être addict au chocolat. On peut surconsommer du chocolat, mais ce n'est pas une addiction. Une addiction, c'est quelque chose dans laquelle on perd le contrôle. Et cette notion de perte de contrôle, elle est très importante. Parce que le jour où j'en ai assez de m'avaler une tablette de chocolat chaque soir, pourtant je m'étais dit, je mange qu'un seul carreau, et voilà que j'ai mangé toute la tablette, le jour où j'en ai vraiment assez, j'arrête d'acheter du chocolat, et le soir j'ouvre mon placard, j'ai environ 5 minutes de frustration de ne pas trouver de tablette, et je passe à autre chose. La personne qui est aux prises avec une addiction, si elle trouve rien dans le placard, elle va continuer à chercher. Et elle va trouver les moyens d'obtenir ce qu'elle cherchait. Elle va sortir de chez elle, elle va peut-être même prendre des risques, elle va partir à 3 heures du matin chercher une bouteille d'alcool, etc. etc. Et ça, c'est important parce que c'est parce que justement il y a cette perte de contrôle que notre intervention en tant que soignant est légitime. C'est bien parce qu'ils viennent nous demander de l'aide, parce que là, il y a perte de contrôle, que nous, on peut intervenir. Et ces rechutes, évidemment, elles viennent affaiblir le rapport à soi. Elles symbolisent la perte de contrôle et elles contribuent activement à ce que la personne addicte doute d'elle-même et choisisse de s'en remettre à un autre. La maladie du désir dans une société de l'hyperconsommation. Parce qu'il se trouve que cette question du désir, puisque c'est celle-ci qui est introduite par la question du bonheur, en tous les cas dans ce que moi j'ai choisi d'apporter, eh bien, il se trouve que notre désir est contextualisé dans une société que je nomme de l'hyperconsommation, dans un monde où l'éthique de la consommation tend à supplanter celle de la production. Le contrôle n'est plus le fait de la morale et du groupe, mais devient propre à chaque individu. Chacun étant responsable de se fixer ses propres limites. Dès lors, nous sommes censés savoir à la fois chercher le plaisir, la sensation forte, et en même temps nous conduire en consommateurs avisés et rationnels, autonomes et raisonnables. L'enjeu est de taille, d'autant que nous sommes à l'ère de la surproduction, ce qui implique pour les industriels de trouver sans cesse de nouveaux débouchés, c'est-à-dire de nous faire consommer plus. Et pour cela, les industriels cherchent, à l'aide de la séduction et de la sollicitation, à nous convaincre que posséder tel ou tel objet représente bien notre désir profond, que c'est un véritable besoin, que nous aurions du mal à vivre autrement. Bref, ils essayent de nous rendre addicts. On se souvient de la réflexion du PDG de TF1 sur le temps de cerveau disponible. Vous vous souvenez de cette réflexion quand il explique que, en fait, lorsqu'il vend des programmes télé, enfin, quand il propose des programmes à la télé, c'est pour vendre du temps de publicité à des publicitaires qui ont besoin de notre temps de cerveau disponible pour qu'on puisse être exposé, justement, à tous ces produits, que ça nous donne envie et qu'on ait envie ensuite de les acheter, de les consommer. Et dans ce contexte, donc, ce sont les pathologies du trop, de l'addiction qui se développent, puisqu'on est dans ce contexte de surconsommation. J'aborde donc mon second point, qui est là beaucoup plus proche de cette question du paradoxe addictif. La rencontre avec toute personne souffrant d'addiction place celui qui le reçoit devant ce constat douloureux. Celui qui s'engage dans une conduite dite addictive le fait au nom du plaisir, d'un mieux-être qui n'est pas sans lien avec cette notion de bonheur. L'adoption de ce comportement constitue toujours, dans les premiers temps, une solution à un vécu douloureux de l'existence. J'ai reçu hier une femme d'environ 40 d'années qui m'explique sa rencontre avec l'alcool. Elle a un vécu très douloureux de l'enfance, avec un père absent, une maman maltraitante, un abus sexuel lorsqu'elle a l'âge de 5 ans, et elle vit avec l'ensemble de ses souvenirs, qui évidemment, quand ils se présentent, ce n'est pas des souvenirs doux, c'est des souvenirs violents, c'est des souvenirs insupportables, et donc à l'adolescence, elle découvre l'alcool, qui anesthésie, qui endort cette douleur, fait qu'elle n'y pense plus jusqu'à la prochaine bouteille. Parce que c'est bien ça, tous ces produits-là, ils n'ont un effet que transitoire. Alors, à la recherche du bonheur, ou plutôt, vous l'avez compris avec cette illustration, ou plutôt à un peu moins de malheur, hein, certains vont s'engager dans des comportements qui, par la répétition, se révèle mortifère. Bien sûr que ce n'est pas grave de boire un petit coup de temps en temps, pas plus d'incidence que cela, mais les patients dont je parle et qu'on rencontre dans les centres de soins, c'est des personnes qui vont répéter cette consommation parce qu'ils y trouvent autre chose que le simple plaisir. Même si consciemment, ils se disent, ben là, ça me fait plaisir. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, qui est que ça soulage d'un malaise intérieur. Et c'est parce que ça soulage d'un malaise intérieur que les personnes y vont retourner consommer. Et comme l'objet est dit transitoire, la bouteille se vide toujours, il faut en retrouver une autre pour à nouveau avoir cet effet. Le problème, c'est que notre cerveau, notre système nerveux central Ça y est, je me suis perdue, mais c'est pas grave. Notre système nerveux central, il est plastique. Ça veut dire qu'il s'adapte. Il s'adapte à cette nouvelle molécule qui vient d'arriver dans notre cerveau, que ça soit l'alcool, que ça soit l'héroïne, que ça soit le cannabis, que ça soit le tabac. Il s'adapte, il découvre, première expérience, et lui, il va se rééquilibrer derrière, puisque ça nécessite, c'est une nouvelle molécule, ça nécessite de se rééquilibrer. Donc il se rééquilibre et il se prépare. Il se prépare à recevoir à nouveau éventuellement cette même substance. Ce qui fait que quand je vais reconsommer une seconde fois, une deuxième fois, une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, et bien petit à petit, l'effet est moindre. Ce qu'on appelle donc le processus de tolérance, hein, un processus physiologique. Ça veut dire que aucun joueur de jeu de hasard et d'argent n'a commencé en jouant des sommes folles. Moi, j'ai des joueurs qui jouaient jusqu'à 10 000 euros par mois. Des joueurs qui arrivent à jouer l'entier de leur salaire en un quart d'heure. Des alcooliques qui arrivent à vous boire 3, 4, 5 bouteilles par jour, en quelques heures. Ils n'y sont pas arrivés du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Et ils n'ont pas souhaité arriver à de telles doses. C'est la nécessité qui s'est installée dans leur corps. C'est-à-dire qu'eux, ils sont à la recherche du premier effet. On appelle ça même, ça dépend des produits, mais pour ils sont à la recherche, par exemple, dans l'héroïne, on parle du flash de l'héroïne. La première fois qu'on consomme de l'héroïne, c'est une expérience unique, évidemment, nouvelle, très forte, très intense. Et la plupart des consommateurs d'héroïne, ce qu'ils recherchent, c'est le flash, le premier flash. Mais dès que cette substance a été introduite dans le corps, comme notre système nerveux central s'adapte, ça sera plus tout à fait comme la première fois. C'est vrai que les premières fois, elles ont toujours un goût différent des autres fois. Et donc, le joueur n'a pas d'emblée joué des sommes faramineuses, de même que l'alcoolique n'a pas avalé 3 litres d'alcool par jour dès ses débuts. Dans ses débuts, par exemple, le joueur de jeu de hasard et d'argent, il va se contenter de jouer 10 euros. La première semaine, il va jouer 10 euros et ça va fonctionner. Il va avoir le plaisir, escompté. Et puis aussi ce fameux soulagement du malaise intérieur. Et donc, il va répéter le comportement, toujours pour atténuer ce mal-être. Le plaisir reste, mais il est doublé par ce second effet, c'est-à-dire le soulagement du malaise intérieur, qui reste longtemps non élaboré. Parce que ce que j'ai peut-être pas précisé, que souvent, ces premières expériences, elles ont lieu à un âge où il n'y a que des premières expériences, quasiment. Et ces premières expériences qu'on fait souvent seules ou entre paires d'âge, puisque ça arrive souvent à l'adolescence, un moment de construction où il y a évidemment cette nécessité de vivre de nouvelles expériences, puisqu'on est en pleine construction. Et à cet âge-là, on n'a pas les mêmes expériences, pour le coup, pour se dire, je repère qu'il y a bien ce plaisir, mais il y a aussi un autre truc qui s'en va. C'est-à-dire, c'est pas conscient. La personne n'est pas consciente que ce qu'elle cherche, c'est plus le plaisir, mais ce soulagement. Et donc, durant toute cette première période qui dure, allez, en général, presque 2 ans, le temps de l'instauration de ce comportement. 2 ans, c'est l'équivalent de la lune de miel, hein, dans la rencontre amoureuse. On appelle d'ailleurs cette phase-là aussi la lune de miel. Et on a raison de le faire parce que on sait aujourd'hui que toutes ces substances, elles agissent sur les mêmes aires du cerveau que pendant l'expérience amoureuse. Donc il y a une proximité entre toutes ces expériences. Donc pendant les 2 premières années, généralement, ce que nous déclarent les gens, et ce qui est vrai, c'est que la vie, elle est mieux avec le produit ou avec le comportement que sans. Mais on comprend bien que vu ce qu'ils avaient vécu en général auparavant, pourquoi ça pouvait les soulager. Je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas que des personnes qui ont vécu des choses horribles, hein, qui se retrouvent aussi dans ce type de situation. Il y a aussi des personnes dont l'existence est très terne, dont l'existence est un peu plate, hein, et qui s'ennuie, comme Adam au paradis s'ennuie. Alors il cherche quelque chose d'intense, une expérience qui les sorte de l'ordinaire. Et c'est vrai que l'expérience addictive, généralement, est une expérience forte, extraordinaire. Donc, au fur et à mesure du temps et de la répétition des expériences, il va y avoir une banalisation du geste, une perte en intensité, et même une inscription dans le social de cette pratique. C'est-à-dire, petit à petit, on devient fumeur, on devient buveur, on n'est plus une personne, on devient joueur, on nous nomme comme ça, on nous reconnaît comme ça. Lui, il est joueur, lui, il est buveur. Et ça commence à s'inscrire, et ça s'inscrit aussi en nous, parce que le regard social que va porter l'entourage sur les conduites, va participer de la construction même de notre identité. Ça marche pour tout, ça marche aussi pour ce genre de pratique. Ah, lui, il est fumeur. Ou il est joueur de jeux vidéo. Hein, et petit à petit, on commence à... Et ben finalement, ce qui se passe petit à petit, c'est que la personne va disparaître derrière le joueur, le fumeur, le toxicomane, le cocaïnomane, etc. Et en quelque temps, par un processus, c'est-à-dire étape par étape, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, pour devenir addict, il faut s'y investir un peu chaque jour, finalement. Eh bien, la personne va être prise au piège addictif. Elle ne peut plus se passer de sa dose, elle ne peut plus se passer de son jeu, elle ne peut plus se passer de son sport, parce que ça fait aussi aujourd'hui partie des comportements qui peuvent induire des formes addictives, sous peine d'être mal. C'est-à-dire qu'un matin, si je ne vais pas courir, parce que j'ai la cheville foulée, eh bien, je ne vais pas me sentir bien dans mon corps. Mais vraiment, je ne vais pas me sentir bien dans mon corps. Et je ne vais pas me sentir bien dans ma tête. Et je vais être irritable. Et je vais m'énerver sur tout. Et je ne vais pas pouvoir dormir. Et ça va affecter mon alimentation aussi. Et donc, de ce fait, on a des personnes, par exemple, qui, en dépit du fait d'avoir une cheville foulée, vont quand même aller courir. Parce que c'est trop important. Hein? Parce que c'est trop important parce qu'ils sont trop mal. Et petit à petit, la vie entière de la personne va s'organiser autour de ce qui est devenu un impératif impérieux, l'exécution du comportement. C'est-à-dire qu'au départ, une personne, elle est au centre de son existence et petit à petit, elle se périphérise. Ce qui est au centre de l'existence de la personne, c'est le comportement. Et il y a une forme d'asservissement, hein. La personne n'est plus acteur de sa propre vie, mais asservie au comportement, esclave d'une drogue, d'un jeu, ou de tout autre objet. Et l'entièreté de son temps est consacrée à se procurer l'argent nécessaire, à l'achat de la dose, à aller acheter l'alcool au supermarché, à la consommer, et puis ça recommence. Et ce qui est paradoxal d'emblée, c'est que quand on rencontre des personnes qui sont aux prises avec un processus d'addiction, souvent ce qu'ils nous disent, c'est que, bon, ben, à l'adolescence, justement, ils avaient envie d'indépendance, qu'ils avaient un fort désir de liberté et d'indépendance, et que ce fort désir d'indépendance les a menés, paradoxalement, à devenir dépendants d'un objet, et généralement, si ce processus et si ce comportement perdure, ils vont devenir dépendants de l'objet, mais aussi souvent d'un entourage qui sera d'accord pour l'aider, pour le soutenir, parce que évidemment que ça prend énormément de temps, hein. Ça, c'est une vision très économique de la situation, mais si vous consacrez tout votre temps à trouver de l'argent pour pouvoir aller vous acheter de l'alcool, pour pouvoir ensuite le boire, ensuite passer cet état, vous n'avez pas le temps d'aller travailler, hein. Ça ne vous laisse pas trop le temps d'avoir une vie ordinaire. Déjà, dans une vie, moi, c'est ce que je me dis parfois, je me dis, mais déjà, dans une vie ordinaire, on a l'impression de courir, mais si on rajoute un comportement addictif, et y en a qui le font, hein. Moi, j'ai des patients qui arrivent à travailler, à se défoncer, et à venir me voir, je trouve ça assez extraordinaire, hein. Le processus donc s'autonomise. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la mécanique se déroule et la personne, elle n'a plus l'air du tout d'avoir le contrôle. Un joueur de jeu de hasard et d'argent m'expliquait donc qu'à la fin, les 6 derniers mois où il jouait, avec cette conscience, hein, de temps en temps de se dire non mais c'est n'importe quoi ce jeu de hasard et d'argent, enfin, je suis en train de faire n'importe quoi, il dépensait 10 000 euros par mois donc dans le jeu, mais dans quelque chose où il était presque dans un état second. Hein. Il n'y a vraiment plus de conscience. Processus s'autonomise et devient difficilement accessible au contrôle conscient. Il faut se dire que les conduites addictives agissent comme des courts-circuits. Hein. On n'élabore plus très longtemps. Hein. On fonctionne comme dans une toute petite roue où il faut trouver l'argent pour pouvoir faire ceci, nanana, et consommer. Et ça fonctionne comme un court-circuit. Ils ne permettent plus au sujet de penser ce qui leur arrive tant ils sont pris dans l'urgence de la consommation. Il leur est quasiment impossible de prendre le recul nécessaire à la remise en question de ce comportement. Donc cette période, elle va s'étendre sur des années. Et c'est souvent épuisé que se présentent dans nos consultations les personnes addictes. Leur demande d'aide, bien que ambivalente, car toujours sous-tendue par l'idée que sans ce comportement, ils seraient peut-être morts, est capitale pour que commence un soin. Alors, par exemple, il y a un joueur de jeux de hasard et d'argent que j'ai appelé Karim, qui, dans les premiers temps, quand il s'est présenté à la consultation, m'expliquait qu'il alternait travail, jeu et séjour en clinique psychiatrique, où il échouait généralement épuisé par son propre fonctionnement. Quand il n'avait plus un sou, quand il voyait plus de possibilités de vivre, plus sens à rien. Et donc, la clinique psychiatrique, c'était pour s'accorder une petite pause salvatrice, mais de plus en plus parasitée par l'activité de jeu. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut jouer de son téléphone portable. C'est le bonheur portatif. Et donc, on peut jouer de son téléphone portable. Et donc, au départ, il allait en clinique et il ne jouait pas du tout. Et puis, au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il pouvait parier de son téléphone portable. Et les pauses étaient de moins en moins des pauses, puisqu'il y avait cette tension du jeu qui s'était même installée dans ce lieu qui aurait dû le protéger. Et dans nos espaces, donc ça a duré 10 ans, hein, comme ça, 10 ans à faire un peu toujours le même cercle. Et puis, quand je le rencontre, on avait ensemble repéré cette boucle. Et donc, il me racontait qu'il s'éreintait dans un travail des maçons, dans un travail qui rapportait mais qui ne lui plaisait pas. Et il se récompensait de son investissement dans le travail en allant jouer jusqu'à se mettre mal. Et donc, lorsqu'il touchait le fond, que plus rien ne faisait sens, alors il allait se faire hospitaliser. Et lorsque je lui demandais, lors de nos entretiens, ce dont il avait besoin, il me donnait toujours la même réponse, de l'argent. Et il repartait. Donc finalement, pour lui, justement, on a organisé un accueil en famille, parce que là, au moins, on a un peu plus de temps pour travailler sur toutes ces questions. Ça a mis. On est vraiment dans des prises en charge. Plutôt moyen long terme, c'est-à-dire qui dure souvent des années. Il ne s'agit pas de trouver une solution, parce que la solution, eux, ils l'ont trouvée. La solution, c'est ce comportement addictif. Et vous le savez, vous et moi, vous le savez, parce qu'on est tous pareils quand même là-dessus, c'est que quand on s'est trouvé une solution, oh, c'est pas si facile que ça de dire ben non, c'est pas la bonne, je remballe. C'est toi qui as raison, c'est ça qui va m'aider plus que ce que je pense, etc. Donc là, l'idée, c'est plus de trouver une solution, c'est d'apprendre à vivre, hein. C'est plus de ça dont il s'agit, à mon avis. Et même là, actuellement, avec le recul que j'ai sur mon travail, je me dis, je bannis ce mot de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des parcours. Et on essaye d'accompagner au mieux cette affaire-là. Il y avait un autre patient qui me l'a dit cette semaine. Alors, je vous le partage parce que je trouvais ça en résonance avec votre sujet. Je repense au moment où je vivais à Élancourt. Le matin, je me réveillais vers 6 heures, généralement en manque, et je devais attendre 8h30, l'ouverture de la supérette, pour aller me procurer de l'alcool. Aujourd'hui, je me lève tout simplement, c'est ça le bonheur. Et alors, c'est le troisième point. Merci. Et alors, pour ce troisième point, je souhaitais parler un peu des prises en charge et comment est-ce qu'on remet du sens. Parce qu'il me semble que c'est de ça dont il s'agit. Donc, notre champ d'activité est fondé sur le principe de volontariat. Il y a trois grands principes dans le champ des addictions. C'est gratuité, anonymat, volontariat. Les principes fondamentaux. Les centres de soins ont été fondés suite à une loi qu'on appelle la loi de 70. La loi de 70 qui a été votée un 31 décembre. C'est les meilleures lois, je crois. Et qui a un volet répressif très, très important, puisque en France, normalement, pour une simple détention et un simple usage de drogue, vous êtes normalement condamné à 1 an de prison. C'est complètement inapplicable, notamment pour un produit qui s'appelle le cannabis et qui a été expérimenté par plus de 16 millions de Français. Expérimenté, ça ne veut pas dire consommer tous les jours, hein. Attention. Il y a évidemment, entre l'expérimentateur et le consommateur quotidien, il y a un gap, hein, évidemment. Mais on comprend bien qu'une telle loi, presque ça fait vriller le sens des lois chez les plus jeunes. Je comprends qu'on puisse remettre en question l'efficacité de la loi au vu du fait que, quand même, le cannabis, aujourd'hui, c'est un produit qui fait partie presque des produits d'initiation, de rituels d'initiation dans les groupes de jeunes. Je pense que le fait que la loi soit aussi punitive et qu'évidemment ça ne soit jamais aussi appliqué, ça met à mal même la notion de loi. Voilà, enfin, ça c'est ma pensée. Il serait temps d'essayer de faire autrement. Mais pour l'instant, le législateur ne touche pas à ça. Voilà. En tous les cas, la loi de 70, elle a ce principe très répressif et ce principe curatif, compassionnel, on dira, avec gratuité, anonymat, volontariat. Gratuité, on comprend bien, hein, un toxico ou un joueur, il fera toujours le même choix. Si on lui dit qu'il faut payer 50 euros là, ici, pour vos soins, ou vous avez 50 euros pour aller vous défoncer, je peux vous dire qu'il choisira la deuxième possibilité, c'est sûr et certain. Et l'anonymat, eh bien, c'est lié au caractère évidemment illégal des substances psychotropes. Aujourd'hui, le paysage a beaucoup changé, mais il fut une époque où les toxicomanes étaient poursuivis par la police. Aujourd'hui, heureusement, on est dans une autre position aussi par rapport à toutes ces consommations. Et ce changement de position est très important parce que si on veut pouvoir aider ces personnes qui, vous le comprenez bien, viennent soigner quelque part quelque chose de leur malheur et de ce qu'ils n'ont pas pu, ce qu'ils ont eu à traverser, des épreuves qu'ils ont eu à traverser, il faut commencer par accepter la situation. C'est un peu... Et puis, je parlais, donc le troisième principe, c'est le principe de volontariat. Alors, le volontariat, ça veut dire que seule la personne concernée peut effectuer une démarche pour elle-même. Et cette notion est primordiale pour que le toxico, joueur, alcoolique, addict, bref, puisse s'emparer de sa propre existence. Puisque, vous l'avez compris, il n'est plus au centre de son existence, il est responsable de rien. Hein, c'est toujours la faute d'eux. Si je me lève, c'est grâce au cannabis. Si je me couche, c'est grâce au cannabis. Si je mange, c'est grâce au cannabis. Bref, ils sont plus responsables de rien. Donc, si on veut les rendre un peu plus responsables, pour qu'ils reprennent leur vie en main, pour qu'ils soient à nouveau acteurs et au centre de leur vie, c'est dès le début, dans les prises en charge, on essaye de les mobiliser. Il n'y a que la personne elle-même qui puisse faire quelque chose. Donc souvent, on est interpellé par l'entourage, la famille, qui s'inquiète à juste titre de la dégradation de la santé d'un proche. Ils ne comprennent pas les choix de leur progéniture, de leurs proches, de leurs conjoints, qu'ils estiment éloignés des pratiques de la bonne vie, celles qui mènent au bonheur. Ils racontent, les parents, l'entourage, comment les mondes dans lesquels se sont inscrits leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leur échappent et ne contribuent, selon eux, en rien à leur bonheur. Alors, j'avais choisi d'appuyer un peu, là, justement, cette idée-là sur les situations de dépendance passionnelle aux jeux vidéo, parce que c'est très actuel. Et il se trouve que pour ces problématiques-là, on a souvent les familles au téléphone, et c'est même souvent les familles qui sont porteuses d'une demande. C'est les parents qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah là là, mon fils de 20 ans, il passe ses nuits sur son ordinateur, il dort la journée, il va plus à l'école, il est déscolarisé, il est en train... » Et c'est le mot qu'on retrouve généralement, dans la bouche des parents, ça y est, je me suis encore perdue, c'est le mot « gâchis », il gâche sa vie. Et ça, c'est un peu l'élément émergé de l'iceberg, cette histoire de gâchis, de cette représentation qu'ont les parents de cette activité qu'a leur enfant. Ça va finir de séparer, en fait, les uns et les autres, généralement. Alors, quand c'est l'entourage comme ça qui est porteur d'une demande, souvent, on est obligé d'abord de leur expliquer que, ben non, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ça les heurte souvent, on se fait engueuler, hein, je ne vous cache pas. Quand il faut expliquer, ben non, je ne vais pas prendre rendez-vous pour votre enfant, il faut que ça soit lui qui prenne le rendez-vous, vous comprenez? On ne va pas chez le dentiste comme on va dans un centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions. C'est une démarche particulière et personnelle. Et puis parfois, quand les parents nous disent « ben non, il s'enferme, il s'isole, il ne veut pas sortir de chez lui », alors on les invite à venir. On invite le porteur de la demande à venir et on essaye de discuter avec eux pour savoir ce qui se passe. Et eux, généralement, ils nous racontent comment ils ont essayé plein de choses différentes. Ils ont menacé, ils ont essayé d'être dans la compréhension, ils ont essayé de motiver, ils ont essayé de contrôler. Et toutes ces tentatives, elles sont mises en échec par la force et la puissance du paradoxe lui-même. C'est-à-dire que ce paradoxe dans lequel se trouve souvent leur enfant, c'est ce qui leur donne souvent l'illusion de cohérence et de maîtrise. Les joueurs de jeux vidéo excessifs ont le sentiment que le monde extérieur les écrase, qu'ils n'ont pas prise sur lui. La plupart d'entre eux ne s'y sentent pas à l'aise. Ils y ont été maltraités, bouc émissarisés, ou bien ils manquent de soutien, un soutien de médiation entre eux et la réalité physique et matérielle. Ils ont été précocement exposés à des malheurs. Alors ils fuient dans des mondes qui leur semblent plus maîtrisables et plus cohérents. Là aussi, je reprends les paroles d'un joueur de 22 ans en première année qui est venu me voir en me disant « C'est ma directrice de mon école d'ingénieur en informatique, évidemment, qui me dit qu'il faut que j'aille vers le soin, donc je viens vous voir. » J'étais très embêtée, j'étais là, vous ne voulez pas m'envoyer votre directrice plutôt, parce qu'elle a l'air motivée, puis pas vous. Hein. Elle était bien embêtée, elle me dit, si, il faut que je vienne, allez, recevez-moi, ça marche mieux. C'est ça le paradoxe. Hein. Nous aussi, on en joue, justement, pour qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Si je lui avais dit, oui, bien sûr, monsieur, venez demain, dès demain matin, vous êtes très important, là, c'est évidemment, il ne serait pas venu. Mais si je lui dis, oh non, je ne sais pas trop... Là, il va insister pour venir. Donc, je l'ai même fait venir à 10h du matin. C'est très désagréable pour un joueur de jeux vidéo parce qu'ils n'aiment pas se lever le matin. C'est vrai. Et il est venu, hein. Et la deuxième fois, c'était rigolo parce que la deuxième fois, il vient, puis mes collègues oublient de me prévenir qu'il est là dans la salle d'attente. Donc il attend 20 minutes. Puis au bout de 20 minutes, on me prévient, donc j'arrive, je dis, bah, excusez-moi, j'ai été prévenu tardivement. Il me dit, oh, j'ai cru que vous l'aviez fait exprès. Non. Non, non, non. Alors lui, il me dit, dès que je m'ennuie, je change de jeu. C'est merveilleux, les jeux. Passer d'un jeu vidéo à l'autre, d'un monde à l'autre, ça c'est le bonheur. Peut-être pas votre définition, mais c'est la sienne. Et il faut pouvoir le reconnaître pour pouvoir l'aider. C'est-à-dire que si je me positionnais en jugeant, comme le font d'ailleurs ses parents, parce que eux, ils sont inquiets pour d'autres raisons, mais tout se mélange, évidemment. Vous savez bien qu'on ne trie pas les choses en disant là, je fais mon rôle de parent par rapport à ta scolarité. Non, non, tout se mélange, les émotions, etc. Et les parents, ils finissent souvent par dire ton jeu de il y en a marre. Donc, si je veux pouvoir passer cette alliance avec lui, alliance thérapeutique, qui devrait l'amener ailleurs, il va falloir que. Je passe par une phase douloureuse souvent, mais un peu moins pour moi, mais un peu plus pour son entourage, d'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut accepter, il faut renoncer à la guerre contre les autres et soi-même. Et aussi d'ailleurs, ils ont ce renoncement à faire pour que petit à petit, on puisse décortiquer ce mécanisme, qu'eux-mêmes puissent prendre conscience du piège dans lequel ils se sont investis. Donc notre travail consiste d'abord à remettre les choses à l'endroit. Mon ex-chef de service, donc le docteur Marc Valeur, il disait c'est la clinique à l'endroit. À l'endroit parce que c'est là maintenant tout de suite et en vrai, avec une vraie rencontre d'être humain, sans blouse blanche, sans un sachant et un autre qui ne saurait pas. Mais plutôt, voilà, une vraie rencontre d'être humain avec une écoute particulière, une bienveillance et une humanité que souvent ils n'ont plus rencontrée. Les joueurs de jeux vidéo, ils sortent quasiment plus de leur chambre. Alors de toute façon, ils risquent pas de rencontrer grand monde. Hein. Il s'agit de permettre à nos patients d'arrêter de ramer à contresens et de restaurer une communication suffisamment en confiance, sans trop de menaces ni d'ambition thérapeutique. Et c'est là qu'il faut considérer cette notion d'approche de sens. Il faut redonner du sens et considérer la fonction du comportement dans l'économie psychique du sujet et dans son existence. Si la personne en est arrivée là où elle est, ce n'est pas par hasard. Souvent, le sens s'est perdu dans la répétition. Et il faut remonter au plus proche de ce qu'on appelle la formation du symptôme, de l'engagement dans la conduite, pour comprendre ce que le comportement est venu faire dans leur vie. Alors souvent, par exemple, moi, aux fumeurs de cannabis, je leur demande de me raconter ce que leur a fait, en termes d'effet, leur premier joint. Et c'est un exercice intéressant parce qu'ils ont des problèmes de mémoire, les fumeurs de cannabis, parce que le cannabis agit beaucoup sur la mémoire. Alors ça les oblige à remettre en perspective leur histoire de fumeur, puisque comme je disais tout à l'heure, ils se présentent plus que comme ça, hein. Ils n'existent plus avant. Ah ben j'ai commencé à 16 ans, comme si avant les 16 premières années de leur vie, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça n'existe plus, quoi. Ils n'existent plus que comme ça. Et donc ça les oblige aussi à se remémorer cette vie d'avant, à percevoir. À quoi est venue répondre cette consommation? Souvent, ils vont vous dire, c'est simple, un fumeur qui répond, ça m'a fait rigoler, c'est qu'il devait beaucoup s'ennuyer dans sa vie. Un fumeur qui vous dit, je me suis senti puissant, ça veut dire qu'il a un gros doute sur sa confiance en lui-même, ce qui n'est pas rare à l'adolescence. Mais comme ça donne d'ailleurs une bonne information sur qu'est-ce qu'il va falloir aller soutenir pour lui permettre petit à petit de lâcher cet objet. Parce que moins il aura de sens et plus il pourra le lâcher. Et aussi, ce que ça permet, c'est de mettre en relief que les besoins d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Souvent, on a commencé à consommer pour une raison qui n'est plus d'actualité. Parce que 10 ans après, le sentiment d'impuissance que j'avais par rapport, ou mes incapacités, par exemple, il est plus aussi fort parce que j'ai réussi à quand même, chez les fumeurs de cannabis, c'est quand même pas rare, à suivre des études ou à travailler ou à avoir une petite amie, etc. Et donc, de ce fait, ça a pu un peu, ça n'a plus le même sens, hein. C'est-à-dire le sens initial qui m'a fait m'engager dans le comportement n'est plus aussi nécessaire. Alors, en guise de conclusion, dans ce domaine particulier qu'est le soin des addictions, où le public reçu est qualifié de difficile, hein, c'est ce qu'on dit, hein, les patients difficiles, ils n'arrêtent pas de rechuter, je ne vous raconte pas comment c'est démoralisant. Il me semble que la position soignante se doit de se tenir entre deux écueils, l'angélisme, le misérabilisme, la compassion aveugle d'un côté, et de l'autre côté, le cynisme et le fatalisme. Il faut se tenir entre ces deux extrêmes qui mènent à manquer la réalité, hein, de la personne qui vient nous demander de l'aide et qui ne peuvent pas permettre un accompagnement vers un peu moins de malheur. Restons humbles. La connaissance de ces existences, de ces trajectoires d'épreuves et de tristesse, laisse à penser qu'en ce domaine comme en d'autres, mieux vaut prévenir que guérir. Or, il me semble à l'issue de cette réflexion que la question du bonheur constitue une entrée. Ah, bah, c'est pas dans le bon ordre. La question du bonheur constitue une entrée. En fait, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est pour ça que j'avais appelé d'ailleurs mon diaporama au départ, mon intervention, le bonheur est dans le pré. Et ce n'est pas en rapport avec une émission télé, hein, c'est en rapport avec un poème que j'avais appris quand j'étais en élémentaire. Et que quand je pense au bonheur, je pense à ce poème. C'est un poème de Paul Fort, donc je l'ai mis là, mais je vais vous le lire parce que je l'aime bien. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, il va filer. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, sur le flot du sourcelet, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, de pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite, il a filé. Voilà, et alors c'est difficile en fait d'expliquer c'est quoi le bonheur, et je trouve que c'est là où le poète nous sauve, parce que finalement on l'apprend très tôt, on s'en souvient, on le comprend plus tard, que sans doute. Le bonheur, ça semble être quelque chose d'accessible, comme ça, c'est pas très loin de nous, mais il va falloir être en mouvement, en tous les cas, pour le rejoindre. Et ce que je trouve joli dans cette prose, c'est évidemment tous ces beaux mots qu'on n'utilise plus, hein, d'ailleurs. Et ça dit que c'est ça la vie, sans doute, hein, c'est tous ces moments et tous ces instants, plus que de courir après, évidemment, qui est le truc répétitif, même dans ce qu'on entend dans la prose de ce poème. Voilà. Et je pense que pour le coup, les personnes addictes, elles n'ont pas dû beaucoup lire ce poème, parce que ce n'est pas tout à fait leur vision, je pense, du bonheur. J'ai terminé.